Direction d'Europe, Catherine Roland.
Venir der Monsir, dich in der Jorn.
Bonjour à tous. Les images ont choqué le 27 janvier dernier devant Auschwitz, alors qu'on commémorait le 74e anniversaire de la libération du camp d'extermination Auschwitz-Birkenau. Un groupuscule de nationalistes polonais sont venus accuser la nation juive de vouloir déformer l'histoire du camp. Une nouvelle attaque contre le musée Auschwitz après celle de l'hiver dernier, quand le gouvernement polonais a adopté sa loi mémorielle très controversée. Rappelons qu'elle interdit à quiconque, sous peine d'amende, attribuer la responsabilité ou co-responsabilité de la nation ou de l'État polonais dans l'Holocauste. Depuis, la polémique s'est quelque peu éteinte, mais non loin du camp, la communauté juive de Cracovie, elle, n'a pas digéré cette loi. Thomas Giraudeau s'est rendu sur place.
C'est un récit étranger et non polonais qui règne à Auschwitz. Une responsable des écoles de la région où se trouve le camp estime que ses guides ne parlent pas assez des 100 000 personnes non juives qui y sont mortes. C'est complètement faux, explique aussi un entrepreneur israélien installé à Cracovie.
J'ai un souvenir précis quand je suis entré dans le musée d'Auschwitz. Dans le premier baraquement, vous voyez les photos de tous les dissidents, les résistants polonais retenus dans le camp jusqu'en 1943. Et les différentes périodes durant lesquelles les nazis ont enfermé tel ou tel type de personnes sont aussi clairement écrites. Jusqu'en 1943, les prisonniers étaient surtout des Polonais, des prisonniers de guerre russes et des gitans. C'est écrit clairement.
La direction du musée a refusé nos demandes d'interview à ce sujet. Elle ne veut plus revenir sur ces attaques survenues à l'hiver 2018. Un guide italien a vu l'étoile juive dessinée à la porte de son appartement avec l'inscription « La Pologne pour les Polonais ». Un acte perpétré alors que quelques semaines plus tôt, le gouvernement polonais a adopté une loi mémorielle sur la Shoah. Elle empêche toute personne de mettre en cause la responsabilité ou la participation de la nation ou de l'État polonais à l'Holocauste sous peine d'amende. Nissan Tsour est journaliste correspondant pour des médias israélien à Cracovie.
Il y a quelques mois, j'ai été invité dans une des universités de Cracovie pour un débat. Et j'ai demandé aux étudiants, aux professeurs présents, si l'un d'entre eux, juste un seul d'entre eux, était prêt à lever la main et admettre que sur les 38 millions de Polonais, il y en avait un, au moins un, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait fait une mauvaise chose à l'encontre de son voisin juif. Personne n'a levé la main. Et là, j'ai compris que la politique du gouvernement fonctionnait. Elle s'est profondément ancrée dans les consciences des jeunes générations. Ça fait très peur.
Dans le quartier juif de Kazimierz, non loin des restaurants touristiques, le centre communautaire juif de Cracovie agit depuis 10 ans pour recréer une communauté et une culture quasiment annihilée par la Shoah. La loi mémorielle votée sur le sujet l'an dernier, ce fut un coup dur pour le directeur exécutif du centre, Jonathan Norstein.
Des gens en Pologne, des politiciens, des médias ont commencé à défendre fortement cette loi. Ils se sont mis à faire des déclarations sur les Juifs, sur Israël. C'était vraiment malheureux. Le danger, c'était que des Juifs partout dans le monde n'aient plus envie de venir en Pologne, parce qu'ils étaient en colère contre le gouvernement et cette loi. Beaucoup nous ont contactés pour nous demander s'ils devaient ou non venir. Je pense que maintenant, la situation s'est améliorée.
Effectivement, des chercheurs comme Rafał Pankowski constatent un peu moins de messages critiquant les Juifs ou carrément antisémites dans les médias et sur Internet. Le pic a été atteint en février et mars de l'an dernier, juste après le vote de la loi, explique ce membre de l'association antiraciste Plus Jamais Ça.
Nous avons vu de nombreux propos ouvertement antisémites prononcés par des hommes politiques, des journalistes, et en particulier à la télévision publique contrôlée par le pouvoir. Pendant plusieurs semaines, il y a eu une propagande constante utilisant n'importe quel prétexte pour présenter les Juifs de manière négative.
Ainsi, un journaliste et un chroniqueur ont osé en plateau faire des plaisanteries sur les chambres à gaz, évoquant des Juifs ayant assisté les nazis autour des fours crématoires. Des propos antisémites de téléspectateurs ont aussi été diffusés lors d'une émission. Rafał Pankowski.
Le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de reconnaissance, une légitimité donnée aux nationalistes extrémistes. On l'a vu le 11 novembre dernier, lors du centenaire de l'indépendance, de manière spectaculaire. Nous avons vu le président de la République et le premier ministre organiser un événement conjoint, une marche avec des membres de l'ONR. Le camp national radical est une organisation d'extrême droite qui tire directement son nom, ses symboles, son idéologie, ses racines des années 30.
Au Parlement, le sénateur de la majorité conservatrice, Yann Jareigne, défend la loi. Professeur d'histoire, il estime qu'elle rétablit la vérité historique. Il assure aussi ne pas avoir vu de messages antisémites dans les médias à la suite du vote du texte. La priorité pour lui, c'est de défendre la liberté d'expression.
Les gens, les Polonais, peuvent parler, discuter sur beaucoup de sujets. Parmi les autres, le sujet concernant les relations polono-juifs en histoire, en présent.
Il y a des limites à cette liberté d'expression.
Bien sûr, c'est la limite de loi, mais on ne peut pas donner au gouvernement beaucoup d'outils pour limiter la discussion. C'est le totalitarisme. Nous sommes vraiment bien élevés par notre histoire que la liberté, c'est vraiment une grande valeur. La liberté de dire, de penser, bien sûr, tout ce que nous voulons.
Et d'insister, la loi polonaise condamnant les propos antisémites est bien faite, elle ne doit pas être modifiée. Dans une étude réalisée l'été dernier par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, sur plus de 400 juifs polonais interrogés, 91% d'entre eux estiment que le gouvernement ne combat pas efficacement l'antisémitisme.
Et à des milliers de kilomètres plus au sud, en Pologne, plusieurs incidents ouvertement antisémites ont émaillé l'actualité italienne de ces derniers mois, des bancs de l'Assemblée nationale au stade de foot, Cécile Debarge.
Lazio, Naples, Israël, même couleur, même drapeau. Des merdes. Voilà le message que les supporters de l'équipe de football de l'AS Roma ont jugé intelligent d'imprimer sur des centaines de flyers qu'ils ont ensuite distribués dans la capitale italienne à l'occasion de l'anniversaire du club rival, le Lazio. C'était à la mi-janvier, quelques jours plus tôt, dans un stade, cette fois, des tifosi reprenaient en chœur le refrain « jaune et rouge, couleur de juif ». Des incidents relativement peu commentés, en dépit de leur caractère clairement antisémite et du fait qu'ils ne soient pas vraiment des actes isolés. Il y a plusieurs mois, une touriste italienne, par ailleurs candidate à la mairie de Budrio, en Émilie-Romagne, avait déchaîné l'opinion publique. En visite dans le village de Mussolini, elle s'était fait prendre en photo avec un t-shirt noir surmonté du célèbre dessin de Disneyland, dont le nom avait été changé en Auschwitzland. De l'humour noir avait-elle alors défendu, attirant toutefois l'attention sur la libération de la parole raciste et antisémite dans le pays. Récemment, un cap a été franchi puisque c'est un sénateur du mouvement 5 étoiles, Elio Lanuti, qui a partagé sur sa page Facebook officielle un article provenant d'un site antisémite faisant référence au brûlot anti-juif, les protocoles des sages de Sion. Le président de la République a immédiatement dénoncé le partage de ces ridicules théories conspirationnistes avant de dénoncer l'augmentation en Italie et dans le monde des actes antisémites et racistes. Selon un sondage Eurobaromètre réalisé en décembre 2018, 58% des Italiens sont préoccupés par l'antisémitisme et un Italien interrogé sur trois pense que le phénomène est en augmentation.
Et pendant ce temps, cette première en Grèce, dans ce pays où l'Église maintient encore une grande influence, un pope a été condamné pour incitation à la haine après des propos homophobes répétés à plusieurs reprises. Une décision qui pourrait rappeler à de nombreux membres du clergé qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Charlotte Stevenard.
Après sa condamnation, le mitropolite de Kalavrita dans le Péloponnèse n'a montré aucun remords. La presse grecque rapporte que le père Ambrosios a aussitôt déclaré sur un ton de martyr qu'il allait en prison pour son Dieu et pour sa foi. En décembre 2015, il avait écrit sur son blog que l'homosexualité était un crime social, un péché, que ceux qui en font l'expérience ou la soutiennent ne sont pas des gens normaux. Il avait notamment appelé à cracher sur les hommes politiques homosexuels ou qui soutiennent ce type de sexualité. Devant la violence des propos, 9 personnes avaient alors décidé de porter plainte, dont Petros Sapoutzakis, enseignant et militant. Aujourd'hui, il estime que cette condamnation est un succès et un grand pas en avant pour les droits des homosexuels, mais aussi pour la séparation de l'État et de l'Église. Pendant le procès, le mitropolite et d'autres dignitaires venus le soutenir avaient justifié leurs propos en estimant que puisque la Bible interdisait l'homosexualité, ils avaient le droit de s'exprimer ainsi. Selon Petros Sapoutzakis, la sentence permet de clarifier une chose. En Grèce aussi, la loi et les droits de l'homme prévalent sur les Écritures saintes. Cette condamnation d'un homme d'Église et leader spirituel pour ses propos est une première dans ce pays. Elle a été rendue possible grâce à une loi votée en 2015 qui permet de condamner les personnes qui incitent à la violence raciste et homophobe.
Bonjour Ingrid Terva.
Bonjour Catherine Roland.
Alors cette semaine, c'est avec vous que nous détaillons les articles que Courrier International a sélectionnés dans la presse européenne. Et on commence avec le Brexit au Royaume-Uni, avec un débat sur les avenirs possibles du pays.
Oui, à Londres, dans les colonnes du Sunday Telegraph, Daniel Annan se met à rêver que son pays s'inspire de Singapour pour faire face au Brexit. L'idée peut sembler saugrenue, mais alors... Le journaliste explique évidemment et revient sur des points historiques. D'abord, Singapour a été fondée par un Britannique il y a 200 ans sur des valeurs de libre-échange et est devenue indépendante de la Malaisie en 1965. Et quand cette toute petite île s'est retrouvée seule, elle a misé sur des préceptes libéraux en supprimant les barrières douanières, tarifaires et autres, sans attendre de réciprocité. La fiscalité a été baissée, des zones à régime préférentiel ont été créées et de grands investissements ont été lancés dans le secteur de l'éducation. Dans le même temps, un système judiciaire solide a été mise en place. Le résultat a été rapide, puisque Singapour est vite devenue la 8e puissance économique mondiale en termes de PIB par habitant. Donc pour Daniel Annan, finalement, pourquoi ne pas opter pour cette recette qui a si bien réussi autrefois dans l'ancienne colonie britannique et l'appliquer au Royaume-Uni ? Eh bien, à Singapour, Vikram Khanna lui répond dans le quotidien The Straits Times. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas du tout d'accord et qu'il trouve non seulement l'idée saugrenue, mais alors complètement irréaliste. D'abord, pour lui, les deux pays ont trop de différences. Il y a le nombre d'habitants, bien sûr, il y a la diversité des secteurs économiques, par exemple. Et donc, trop de différences pour que ce qui a marché pour Singapour fonctionne pour le Royaume-Uni. Et puis, fait non négligeable, il ne semble pas exister un homme providentiel à la Lee Kuan Yew à Londres aujourd'hui. La réplication du modèle singapourien ne serait donc qu'une énième chimère de plus des pro-Brexit.
Alors, autre pays, Ingrid, autre polémique à la veille de l'ouverture du procès des séparatistes catalans le 12 février prochain, un important procès dont on parle évidemment dans les journaux.
Oui, vous avez raison Catherine, et le sujet est particulièrement clivant en Espagne. Alors d'abord à Madrid, El País voit d'un très mauvais œil les événements de 2017. Alors, un petit rappel, à l'époque, en octobre 2017, les sécessionnistes avaient organisé un référendum, puis proclamé l'indépendance de la Catalogne. Le procès aujourd'hui, qui doit durer au moins 3 mois, risque de mener à davantage d'agitation. Et El País suggère une solution, organiser un nouveau référendum, pour savoir si les Catalans sont favorables à une renégociation ou au statu quo. D'après le journal, je cite, « il en résulterait une négociation rapide et tranquille, aboutissant à un nouveau statut d'autonomie ». Je note, pas d'indépendance, d'autonomie. Mais alors à Barcelone, El Nacional ne l'entend pas du tout de cette oreille. Selon le site catalan, le procès s'annonce inique, puisque, je cite à nouveau, « les châtiments sont disproportionnés, a fortiori quand ils sont motivés par la haine, la vengeance, la répression ou l'inhumanité. On prétend faire juger des politiques indépendantistes catalans par des juges espagnolistes. C'est comme si des juges machistes prétendaient juger des femmes sexuellement libérées, ou comme si des juges franquistes prétendaient juger des citoyens démocrates. » Vous voyez, le débat fait rage.
Alors Courrier a enfin sélectionné cet article américain sur la bagarre entre gouvernements occidentaux et Huawei, le géant des télécoms chinois qui pousse ses pions un peu partout dans le monde et notamment en Europe.
Oui, en quelques années, effectivement, le géant chinois s'est imposé aux États-Unis, au Canada et donc aussi en Europe. Alors, quel est son secret ? Eh bien, c'est investir massivement, comme le raconte le New York Times. Investir massivement, donc, dans des centres de recherche, des congrès de partis politiques aussi, dans des infrastructures, et j'en passe. C'est un vrai travail de lobbying de fond. Et un travail qui paye, puisqu'aujourd'hui, 12 000 des 180 000 employés de Huawei se trouvent en Europe, contre seulement 7 300 en 2013. Mais aujourd'hui, je cite, la chute de Huawei se précipite en Europe. Car partout, les gouvernements prennent peur. En Pologne, en Allemagne, en République tchèque, mais aussi en France. Alors pourquoi prennent-ils peur? Eh bien, parce que ces pays craignent une mainmise de l'entreprise chinoise, et à travers elle, de la Chine, sur leurs infrastructures via la 5G. Un risque pour la sécurité nationale majeur, surtout quand on sait que la Chine est quand même loin d'être exemplaire en termes de cybersécurité, de piratage, de vol de secrets commerciaux, sans parler évidemment de droits humains. Mais qu'à cela ne tienne, Huawei n'a pas dit son dernier mot et a organisé une grande opération de séduction qui aura lieu lors du MWC, le Mobile World Congress, le grand salon de la téléphonie mobile, qui se tiendra à Barcelone du 25 au 28 février. L'affaire et le bras de fer sont donc à suivre.
Et oui, à suivre donc. Merci Ingrid Tervat, et ses articles sont à retrouver dans Courrier International. À bientôt Ingrid.
À bientôt Catherine.
Musique.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors Vincent, cette fois-ci, votre sélection du jour nous amène en Espagne.
Et oui, et à Barcelone, plus précisément, où Raúl Fernández Miró travaille depuis près de 25 ans, multipliant les projets sans égard particulier pour les notions de genre ou de frontières. Après des débuts plutôt rock au sein de différents groupes, il crée en 2002 l'alias Refree, sous lequel il enregistre des albums plus personnels, une dizaine à ce jour. Mais le catalan a aussi multiplié les bandes originales de films, les productions et autres collaborations avec des artistes issus du rock expérimental ou du flamenco, comme la jeune Rosalia. Le nouvel album de Refree s'intitule La Otra Mirada, l'autre moitié, et regroupe deux maxi, initialement publiés en 2017, dont les titres sont ici mélangés pour créer un paysage impressionniste entre instrumentaux acoustiques, rêveries électroniques, objets sonores non identifiés ou chansons plus traditionnelles, comme ce beau morceau interprété par la chanteuse Rocío Márquez.
Cette semaine, donc, avec Cuando Salga el Sol de Refree, avec la voix de Rocío Márquez. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, la mise en onde, il y avait bien évidemment Françoise Crelot.